Avec vous au microphone, Claude Julien, mon invité Francine Robert. Nous échangeons sur une parabole un peu surprenante. Et puis, Francine, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un pas de plus dans la compréhension de cette parabole un peu surprenante.
On se laissait sur la question « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? » C'est l'avantage d'une parabole qui met en scène du familier et qui nous conduit à une situation de choc et de surprise. L'avantage, c'est de nous amener à nous poser des questions sur notre façon de voir. Ce qui entre en conflit, ce qui fait choc, c'est finalement la mise en contradiction de belles idées qui, abstraites, vont toutes ensemble. Justice, bonté, charité. Vous voyez, tout ça, tant que ça tient dans le discours abstrait, ça va ensemble sans conflit. Dans la vie réelle, la justice et la bonté, ça ne marche pas toujours ensemble. Il y a parfois des moments où on doit faire des choix, et d'autres font des choix aussi qui ne nous plaisent pas toujours. Et Jésus raconte, au fond, une situation comme celle-là. Et on doit, à mon avis, jamais transformer la parabole en une sorte de message qui se retrouve désincarné. La parabole incarne, justement, pour nous dérouter et pour nous faire voir que le discours abstrait, ça roule un temps, mais quand il s'agit de l'incarner, c'est autre chose. Daniel Marguerat, encore l'exégète suisse dont je parlais tout à l'heure, dit que les paraboles recomposent le quotidien. Et j'aime beaucoup cette expression-là. Elles sont concrètes d'un concret familier et voici qu'elles dérapent, comme nous le disions plus tôt. Et ce qui était familier devient dissonant. Et ça permet à la parabole d'offrir, on pourrait dire, la manière dont Dieu voit notre familier. La proposition d'une vie quotidienne, concrète, vécue dans la dynamique du règne de Dieu, plutôt que dans la dynamique qui est la plus naturelle à laquelle on est habitué. Par exemple, un travail égal, salaire égal, la routine, quoi. Et voici l'éruption du choc et de la surprise, de la déroute. Peut-être que le règne de Dieu fonctionne dans le registre de la gratuité, dans le registre du don, sans disqualifier la justice, mais il va plus loin.
Ça nous sort de notre, je dirais, de notre culture, de notre rationalité, de toutes ces habitudes que l'on a prises et dans lesquelles nous sommes installés. Il y a une éruption, comme vous dites, là. Il y a un volcan, là. Il y a une nouveauté, là, qui surgit.
Oui, il y a une nouveauté.
Et
je dirais, c'est la nouveauté de Dieu. C'est une bonne nouvelle, après tout. Et d'une certaine manière, il est tout à fait normal de s'installer dans une routine de mérite. Et donc de justice calculable. C'est pas étroit d'esprit de faire ça. On doit vivre, on organise le quotidien. Et donc, ça prend des repères comme ceux-là, simples, faciles. Et tout à coup, fait irruption la gratuité qui passe complètement à côté de la règle, à côté de l'habitude qui régule la quotidienneté. Ça, c'est la nouveauté du règne de Dieu. Et c'est le récit qui met ça en scène, finalement. Et qui fait déraper l'énoncé de principe. Si je vous dis que, vous savez, Dieu est amour, bon, Dieu aime infiniment, ben oui, on le sait, ça.
Ben oui, puis après.
On a l'impression de le savoir depuis toujours. On se fait raconter un récit comme ça, mais là, dis, minute, là, où est-ce que ça s'en va, ce truc-là?
Ça passe pas, là.
Là, pourtant, c'est simplement la mise en œuvre d'un maître qui aime et qui dit bien, ben oui, c'est quoi ton problème quand je deviens bon? Tout à coup, t'as un problème avec ça? Voyez comment la force, donc, de la métaphore, finalement. Un peu comme des récits qui mêlent dans les contes de fées un peu de merveilleux et du réalisme. Ici, le merveilleux, c'est le règne de Dieu. Et le réalisme, c'est la vie humaine. Alors, c'est donc une proposition de la vie humaine transformée sous le regard du règne de Dieu. Je dirais que ça doit rester radicalement interpellant pour nous. Ça doit rester un peu choquant, cette parabole. Si on en vient à trop bien l'expliquer, on met Dieu dans sa poche, finalement. Vous voyez, Dieu n'est plus cet autre qui peut nous surprendre. Mm-hmm. Alors, il y a un appel, je dirais, dans les paraboles comme celle-là, elles ne sont pas toutes aussi déconcertantes, mais dans celle-ci et d'autres comme elle, il y a un appel à consentir à l'altérité de Dieu. On reconnaît là un thème qui est assez proche de notre première lecture de Isaïe à propos de Dieu qui est déroutant. Peut-être vous pourriez, oui, s'il vous plaît.
Oui. Oui, c'est bien de mentionner parce que effectivement, en principe, les premières lectures de nos liturgies sont choisies en fonction de la page d'Évangile.
Ici, c'est bien le cas.
Ça, faut pas perdre ça de vue. Alors, effectivement, c'est intéressant d'entendre ce qu'on trouve en première lecture, c'est-à-dire au prophète Isaïe au chapitre 55. J'en fais lecture. « Que le méchant revienne vers le Seigneur notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Vous voyez, hein, donc c'est comme si Dieu nous prévient d'une certaine manière. Je fonctionne selon des modalités qui parfois ne sont pas celles auxquelles vous vous attendez. Et il me semble que c'est cette théologie-là que la parabole met bien en scène. Mais on voit ça aussi dans le psaume. Qu'est-ce qui est étonnant dans les pensées de Dieu et qui ne coïncide pas avec les nôtres, c'est que sa justice, c'est l'amour. Hein? C'est que sa justice, c'est la bonté. C'est que sa justice, c'est la gratuité. Et ce que la parabole montre, c'est que spontanément pour nous, sans égoïsme de notre part, on est comme ça, spontanément pour nous, la justice et la gratuité, ça va pas ensemble. Alors, quand on regarde le psaume, hein, la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, le Seigneur est juste en toutes ses voies. Et là, habituellement, on lit sans problème, mais là, on devrait se dire, bon, branche-toi, psalmiste, est-ce que tu nous parles de la bonté de Dieu, là, ou de sa justice? Mais c'est ça l'étonnant de Dieu.
Et ce psaume 145 fait suite à la première lecture.
Oui, c'est le psaume de ce dimanche, absolument, que d'ailleurs l'exclamation avant l'Évangile va reprendre. On pourrait se demander, est-ce qu'après avoir entendu l'Évangile, nous redirions cet Alléluia qui a été dit juste avant la proclamation de l'Évangile, qui est « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, tous acclameront sa justice ».
Imaginez, c'est avec cette phrase-là qu'on accueille finalement l'Évangile qui nous est présenté comme...
Je trouve que c'est parfait comme... j'ai pas toujours autant de joie à l'organisation des textes du lectionnaire, mais cette fois, c'est très convergent.
Il y a une cohérence.
Et on peut se demander, en se laissant vraiment choquer par la parabole, je dirais, en acceptant qu'il y a une partie de nous qui murmure, comme les ouvriers de la première heure. C'est une partie de nous. Comment peut-on accueillir en même temps ce visage de Dieu? Est-ce qu'on peut s'en réjouir? On peut considérer ça comme une transfiguration de la vie sociale, de la vie humaine, qui soit salutaire pour nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que cette proposition-là de Jésus de Nazareth nous paraît recevable comme bonne nouvelle? Quand on parle comme ça, je dirais, on rejoint à la fois l'intentionnalité des évangiles et de l'écriture biblique et l'intentionnalité de l'homme de Nazareth, hein, qui essayait lui aussi de présenter ce visage-là de Dieu dans sa pratique comme dans son enseignement.
Je demeure où l'amour loge, j'y retourne à chaque pas. Le temps n'est pas dans l'horloge, mais dans votre cœur qui bat. C'est bien un cœur qui m'appelle, je ne sais pas depuis quand. Sa mélodie est si belle et son chant si éloquent. Ce cœur, est-ce bien le vôtre qui s'accorde avec le mien? Si c'était celui d'une autre, je ne répondrais de rien. Mais ce tam-tam qui frotte, fredonne un refrain que je connais. C'est celui de votre automne, à l'entendre je renais. Il fallait bien que je sorte des semaines de grand froid. Si l'on cogne à votre porte, ce sera peut-être moi. Le printemps qui nous convie mettra ses fleurs dans vos mains. Allons rencontrer la vie, nos cœurs sauront le chemin. Je demeure où l'amour loge, j'y retourne à chaque pas. Le temps n'est pas dans l'horloge, mais dans votre cœur qui bat.
Avec vous, microphone, Claude Julien, mon invité Francine Robert. Francine, si on résume un peu cette parabole, ce serait une illustration, hein, on pourrait dire même très éloquente, de termes auxquels on est peut-être trop habitué, comme par exemple l'amour de Dieu, l'amour gratuit, la gratuité de Dieu, autant des thèmes, on pourrait dire abstraits, là, mais là, on l'a concrètement là. Hein, on voit oui. comment ça se traduit. Bon. Oui. Et maintenant, si vous voulez, il nous reste peu de temps, ça serait bien de le situer dans l'œuvre de Matthieu. Connaissant un peu cet évangile-là, je sais que ça a été bâti avec beaucoup d'attention, si on peut dire, hein. Ça n'a pas été ramassé à gauche et à droite puis mis bout à bout, là. Il y a un plan, là, hein. Ça serait intéressant que vous nous disiez les étapes qui nous conduisent dans l'œuvre de Matthieu, à cette parabole-là.
Oui, au fond, donc, d'aller voir dans quel contexte Matthieu la place. Comme vous dites, il choisit avec soin. Chacun des évangélistes, d'ailleurs, apporte le même soin à son évangile, absolument.
Mais je suis porté à penser que Matthieu...
Privilège pour Matthieu.
J'avais l'impression que Matthieu avait beaucoup de plus... Mais enfin, ça, c'était un autre débat.
On ouvrira un beau débat sur l'évangile de Marc.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est que ces œuvres-là, ce sont des œuvres littéraires, qui sont bâtis selon...
qui sont, je dirais, aussi bien bâtis qu'une parabole, c'est-à-dire conçus pour amener le lecteur quelque part, de la même manière qu'une parabole est conçue pour amener un auditeur quelque part, simplement à plus large échelle. Et voyez, Matthieu utilise les textes, les récits tels qu'ils sont déjà organisés par Marc dans son évangile. Et il va introduire cette parabole dans une séquence de récits qu'on trouve chez Marc. L'appel du jeune homme riche, qui est dit jeune dans l'évangile de Matthieu. Alors, l'appel du riche. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment on commence. Quelle est la question que le riche pose?
Que dois-je faire pour entrer dans le royaume
oui,
de Dieu?
Oui, absolument, pour avoir la vie éternelle.
Pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire?
Plus précisément, dans Matthieu, c'est « que ferais-je de bon? »
Ah, tiens.
Pour avoir, et c'est le même mot en grec que dans la fin de notre parabole, « ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? » À la suite de cette question, dans ce récit chez Matthieu, Jésus répond « pourquoi m'interroges-tu sur le bon? » Car un seul est le bon. En monde juif, dans la foi hébraïque, c'est pas les actes qui sont bons, c'est une personne. C'est pas une catégorie abstraite, le bon ou le bien, c'est le même mot. Mm-hmm. Ce n'est pas une catégorie abstraite, c'est une personne, c'est Dieu qui est le bon. Alors, vous voyez comment ce récit-là commence avec ce par quoi se terminera notre parabole. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Et, bon, on connaît l'histoire du jeune homme riche qu'on va pas commenter maintenant. Jésus l'invite à respecter la loi et donc à agir selon la justice telle qu'on l'entend dans la vie de foi de tous les jours du monde juif ou du monde chrétien. Faire ce qui est ordonné par l'évangile ou par la foi. Et c'est comme ça que tu vas avoir la vie éternelle. On serait avec les ouvriers de la première heure, pourrait-on dire. On fait bien son boulot de croyant. Et on a la vie éternelle, on a ce qui est convenu. Mais l'homme riche dit, je le fais déjà, tout ça, qu'est-ce qui me manque? Et là, voici arriver l'extravagance, comme dans la parabole. Hein? Vends tous tes biens, donne tout ça aux pauvres, puis viens-t'en, viens suis-moi. Alors, on voit bien là arriver, surgir l'extravagance, la gratuité, la folie, la gratuité.
Parce qu'il y a quelque chose de fou dans ça.
Il y a quelque chose de fou, certain, et qui n'est pas vraiment nécessaire, puisque Jésus vient de lui répondre à sa question, ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Donc, tout ce qui précède était bien. Si tu veux faire plus, là, tu entres dans l'extravagance de l'amour et de la gratuité, du don. Hein? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Est-ce que tu vas t'ouvrir à cette folie, à cette extravagance du don? Et alors, bien sûr, il s'en va et Jésus commente, disons, la difficulté pour un riche d'entrer dans le règne de Dieu, c'est-à-dire d'entrer dans cette dynamique de l'extravagance du don, et non pas d'entrer au ciel.
Ça.
Et les disciples vont dire, mais alors, qui peut être sauvé? Et bon, à Dieu, tout est possible, même de sauver le riche, à Dieu, c'est possible. Ça, c'est l'extravagance de Dieu. Pourrait-on dire. Et c'est là que Pierre va poser cette fameuse question, mais nous, on a tout laissé pour te suivre, ça va être quoi notre récompense? Et on s'aperçoit, quand on travaille le grec ou l'hébreu, que les mots que nous traduisons tantôt par récompense, tantôt par salaire, ce sont les mêmes mots. Il y a un seul mot en grec. Pour les deux, mistos, et il y a un seul mot aussi en hébreu. Donc, que ce s'agisse de... Pierre demande...
Un seul mot pour salaire et récompense.
Oui, nous traduisons tantôt salaire tantôt récompense. Mais il n'y a qu'un seul mot.
En grec, il y a un seul mot.
C'est ça. Alors, voyez comment on se rapproche de notre parabole et comme son contexte est bien choisi par Matthieu. Pierre demande, finalement, comme croyant, ça va être quoi, moi, ma récompense? Hein? Comme disciple, ça va être quoi, mon salaire? Et là, on comprend que pour Matthieu, cette parabole des ouvriers de la 11e heure vient comme illustrer le jugement, les questions qui se posent par les chrétiens sur ce qui se passera au jugement dernier. Le jugement dernier étant un thème important chez Matthieu. Et ces juifs chrétiens qui constituent la communauté de Matthieu et qui se disent, nous, on est là depuis le début, le peuple de Dieu est engagé dans l'alliance depuis le début, c'est très bien comme ça, et voici qu'arrivent des Grecs, des Galates, n'importe qui, deviennent chrétiens comme ça, ne suivent pas la Torah et reçoivent le même salut que nous. Vous voyez, et là on entend cette critique ou ce murmure, disons, contre Dieu, du bon croyant qui, convaincu de son bon droit...
C'est ça. Ces juifs-là, c'est important ce que vous dites là. Là, c'est dans les premières communautés chrétiennes là, qui se considéraient comme membres du peuple de Dieu, de génération en génération,
qui si on veut dire. Ils étaient membres.
Ils appartenaient.
Pas juste se considérer.
Non, vous avez raison. Ils appartenaient. Et voilà que ces païens, enfin, on les appelle comme ça parce que ça résume.
Les non-juifs, tout simplement.
Les non-juifs qui entrent dans la communauté et qui sont les ouvriers de la dernière heure, peut-être.
Tout à fait.
Hein?
Tout à fait,
voilà.
C'est ça. Et qui, donc, reçoivent, tu les fais égaux à nous, c'est-à-dire tu leur donnes le même salut qu'à nous. Et on pourrait, compte tenu du peu de temps qui reste, extrapoler, hein. Il ne s'agit pas juste des juifs et des non-juifs, il s'agit finalement de tout croyant, sûr de son bon droit, bien installé dans son bon droit, donc considérant qu'il mérite le salut et que Dieu est lié par contrat.
Exact.
Et qui, tout à coup, s'insurge et devient étroit de cœur, je dirais, en voyant que, oui, Dieu respecte son contrat avec lui, mais va se permettre d'être généreux avec d'autres qui n'ont pas respecté le contrat. Et que donc, le salut est toujours un don et jamais un dû. Alors, là, au fond, Matthieu extrapole et nous permet de sortir de la dynamique strictement juive et païenne pour dire, attention, tout croyant est menacé par cette étroitesse de l'œil mauvais devant la gratuité un peu folle de Dieu.
Bien. Eh bien, c'était Francine Robert qui était mon invitée aujourd'hui à cette émission. Francine enseigne à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission car nous allons être ensemble encore pour les émissions qui s'en viennent. Alors, portez-vous bien. Merci d'être avec nous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.